Bien-être ensemble, le magazine de la famille et de l'éducation présenté par Émilie Brigand. C'est le rendez-vous avec vous-même à ne pas manquer sur Radio Médecine Douce.
Oublie ton chagrin, surtout ne crains rien. Je prends en main ton destin. Lorsque le danger te menacera, je serai là avec toi.
Tu es si fort et si fragile. Viens dans mes bras, je te ferai une île. Ce lien qui nous lie ne cassera pas. Ne pleure pas, je suis là. Car tu vis dans mon cœur. Oui, tu vis dans mon cœur. Dès maintenant jusqu'à la nuit des temps. Tu vis dans mon cœur. Qu'importe le discours. Tu vivras dans mon cœur. Toujours.
En Occident, les bébés passent beaucoup de temps dans les poussettes et les transats. En général, chacun a son lit et est couché à heure fixe, à peu près fixe. Dans son livre « Our Babies », l'anthropologue Meredith Small écrit « La manière dont les Occidentaux élèvent leurs enfants est purement culturelle et n'a que peu à voir avec les simples besoins naturels de ceux-ci ». Selon elle, l'objectif dès le berceau est de façonner des citoyens indépendants pour répondre aux besoins d'une société d'après-guerre moderne et chronophage. À l'extrême inverse, en Afrique australe, par exemple, les femmes de l'ethnie du Botswana portent leurs bébés du matin au soir, dorment avec eux et les laissent téter à la demande. C'est ce qu'on appelle le maternage proximal, qui inspire aujourd'hui de nombreuses mamans et parents en France, même si leurs pratiques ne sont pas encore véritablement entrées dans les mœurs. Allaitement tardif, cododo, peau à peau, portage, ne jamais laisser pleurer un bébé et la langue des signes avec son enfant, d'où vient véritablement le maternage proximal et comment se définit-il en France depuis les années 90? Quels sont les grands principes qui le régissent et pourquoi cette tendance ne fait-elle pas toujours l'unanimité? Et si on parlait aussi de paternage proximal? Pour nous informer sur le sujet, j'ai réuni 4 experts aujourd'hui sur le plateau de Bien-être Ensemble. Véronique Darmanja, consultante en lactation. Elle a ouvert le centre Véronique Darmanja à Paris où se trouvent des consultantes en lactation certifiées IBCLC, 2 ostéopathes, une psychologue, un ORL, une diététicienne, des cours de portage et des ateliers de diversification alimentaire pour les bébés. Et elle y propose également de la formation pour les professionnels de santé. Oriane Emmanuel-Émile, diététicienne, consultante en lactation IBCLC, conférencière et monitrice de portage. Gilles Vaquier, ancien préparateur en pharmacie, diplômé d'État en petite enfance et formateur pour parents en discipline positive, formé lui-même à la parentalité positive par Isabelle Filioza. Il est le fondateur de l'atelier du papa à Paris 15e, l'atelier du futur papa, je crois, à Paris 15e, premier concept de préparation à la parentalité dédié au futur papa. Il prépare actuellement un livre, Nouveau papa, les clés de l'éducation positive, à sortir le 10 janvier prochain. Et Bertie Poincelet, éducatrice spécialisée à temps partiel, elle est aussi animatrice et formatrice certifiée bébé fais-moi signe pour une communication gestuelle associée à la parole avec les tout-petits. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Chers auditeurs et auditrices, on vous attend également dans cette émission. Vous pouvez nous laisser vos témoignages ou questions dans l'espace commentaire de la radio. Entre expérience et effet de mode, éclairage sur une tendance qui questionne la parentalité avec Radio Médecine Douce. Bienvenue à tous dans votre émission.
Bien-être ensemble.
Ce sont d'abord les États-Unis qui, dans les années 60, se sont employés à populariser le maternage proximal grâce au soutien de la presse écrite notamment. En France, le maternage proximal est diffusé dans les années 90 par la pédiatre Edwige Gentier et la psychologue Isabelle Filiosa, qui soutiennent et développent le mouvement, et avant elle, par la Lecce League. Car l'allaitement et l'allaitement tardif sont au centre du maternage proximal. C'est un peu leur cheval de bataille pour les maternantes. En tous les cas, les maternantes, ce sont les adeptes du maternage proximal. Il n'est pas rare qu'on les voit nourrir leur enfant au sein jusqu'à 6 mois de manière exclusive, et 2 ans ou plus ont été de complément. Alors, qu'est-ce qui est recommandé par l'OMS, très exactement déjà, en termes d'allaitement et d'allaitement tardif, Véronique Darmanjat?
Alors, l'OMS recommande 6 mois d'allaitement exclusif et au moins 2 ans d'allaitement avec une alimentation solide en complément. Donc, c'est bien au moins 2 ans la recommandation et pas au plus 2 ans.
Au moins 2 ans et pas au plus 2 ans. Ouais, la nuance est importante à faire. Alors, est-ce qu'on pourrait remplacer, par exemple, l'expression allaitement tardif par allaitement à la demande, finalement, dans l'idée du oui. maternage proximal?
Effectivement, un enfant qu'on laisse téter aussi longtemps qu'il le souhaite et comme il le souhaite, va téter longtemps et s'arrêter seul.
Donc, on préconise un sevrage de manière naturelle?
Préconise, je ne sais pas, mais en tout cas, un enfant qu'on laisse faire, il va s'arrêter tout seul, parce qu'à un moment donné, il n'a plus besoin de téter. Mais il s'arrête seul, en général, entre 2 et 5 ans, selon les enfants. Donc, allaiter un enfant qui a 4 ans ou 5 ans, c'est pas quelque chose de choquant.
D'accord, si c'est lui qui le demande, en gros, c'est ce que vous dites.
Bien sûr.
Ces pratiques du maternage proximal qui tentent de combler au mieux les besoins de l'enfant par une écoute et une présence attentive sont basées sur les travaux du psychiatre et psychanalyste anglais John Bowlby, je ne sais pas si je le prononce bien, qui décrit l'attachement comme un des besoins primaires du jeune enfant, au même titre que manger ou dormir. Et selon lui, ce n'est que lorsque ses besoins de proximité sont satisfaits qu'il peut s'éloigner de la figure qui le sécurise, en l'occurrence sa mère, pour explorer le monde. Et Isabelle Filiosa, en France, défend qu'il ne faut pas forcer l'autonomie des bébés, mais remplir leur réservoir affectif pour qu'ils puissent affronter le monde en sécurité. C'est grosso modo la même chose, ce qu'elle dit. C'est un des arguments aussi fondamentaux de l'allaitement tardif ou à la demande. Je ne sais pas sur quoi on va se mettre d'accord finalement aujourd'hui comme appellation. Véronique ?
Oui, c'est-à-dire que un enfant qu'on laisse téter effectivement à la demande va prendre tout ce dont il a besoin, et une fois que ce réservoir est rempli, effectivement, à un moment donné, il n'en a plus besoin. Mais le petit humain est un petit mammifère. Chez tous les mammifères, c'est la même chose. Le petit tète tant qu'il en a besoin. D'un point de vue nutritionnel et d'un point de vue de contact avec sa mère. On n'est pas les seuls mammifères à avoir besoin de contact. Si on regarde les grands singes, par exemple, les petits ont autant besoin de contact et ils sont en contact permanent avec leur mère. C'est un réservoir de lait et de contact.
Et chez les mammifères, jamais la mère, au bout d'un moment, n'a ras-le-bol et fout les petits un peu plus loin parce qu'elle en a ras-le-bol de donner la tétée, ou juste qu'il l'agace ou qu'elle est fatiguée.
Oui, mais chez les humains aussi.
Ah, donc même dans le maternage proximal, on a le droit de faire ça.
De temps en temps, quand les enfants grandissent, l'allaitement, c'est pas que à la demande de l'enfant, c'est un accord entre la mère et l'enfant, et le père aussi, parce que c'est important que tout le monde se sentent bien. On voit souvent des mamans qui disent à des enfants qui ont 2-3 ans, oui, je te donnerai à téter, mais attends qu'on soit rentré à la maison, par exemple, ou pas dehors, il fait froid, attends qu'on soit à l'intérieur. C'est des accords, finalement, et c'est une balance, un équilibre entre la mère et son enfant.
Véronique Darmanjat, forcer les séparations, comme dans un apprentissage précoce de la vie, selon vous, ça ne fonctionne pas?
Je ne sais pas si ça
C'est-à-dire
fonctionne
que certains,
jamais, ça peut
certains prônent le « ah bah oui, mais en fait, quand le bébé est trop proche de sa mère, finalement, il n'apprend pas la vie et la séparation fait partie de la vie ». Ça, c'est un argument contradictoire qu'on peut entendre souvent.
Oui, mais en fait, un enfant qu'on ne force pas à se séparer de sa mère va se séparer de sa mère. Et quand il le fera, c'est qu'il y sera prêt. Mmh. Et en général, il le fait de manière très tranquille. Ce n'est pas du tout dans la douleur, et c'est des enfants qui sont en général plutôt très autonomes après. Coller à maman petit, oui, parce qu'ils en ont besoin. Ça ne veut pas dire coller à maman à vie, on n'en fait pas des tanguilles. Hein.
C'est pas l'idée, en tous les cas. Les opposants aussi au maternage proximal invoquent, en rapport avec cette problématique de l'attachement, que le bébé a besoin de différencier son corps de celui de sa mère et que c'est en étant face à son propre corps qu'il va pouvoir en apprécier les contours et se définir lui-même et pouvoir être rassuré. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord?
Oui et non, c'est-à-dire qu'on ne se définit jamais soi-même tout seul. On se définit par rapport aux autres, on se définit par rapport à son environnement. On se définit parce qu'on voit bien que quand on touche maman, on a une sensation à toucher maman. On ne peut pas se définir seul. Et d'ailleurs, l'exemple pour moi typique, c'est toutes ces pouponnières qu'on voyait dans les pays de l'Est avec des enfants laissés seuls. Et ces enfants, ils ne se développaient pas. Et ils étaient bloqués dans leur développement. On ne se développe que par rapport aux autres.
Et dans le contact.
Bien sûr.
De son propre corps, mais aussi de celui de la mère. C'est-à-dire que ce n'est pas en étant en contact avec le corps de la mère ou du père, d'ailleurs.
Bien sûr.
Ça n'empêche pas d'être en contact avec le sien aussi.
Ben, c'est parce qu'on est en contact avec les autres qu'on est en contact
avec
soi.
Oui, mais je veux dire, ça n'empêche pas le bébé de se toucher aussi, lui-même, tout seul, sans ce contact-là.
Bien sûr.
C'est les adeptes du maternage proximal, donc qu'on appelle les maternantes, ont tendance à préférer l'expression maternage proximal à maternage intensif, qu'on peut aussi entendre, parce que ça valorise donc encore une fois cette notion de proximité, ce qui nous amène à parler du cododo. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est, déjà en quelques mots, le cododo, Véronique Darmanin?
Alors, le cododo, c'est le fait qu'un enfant dorme avec ses parents sur une même surface de sommeil, on va dire.
Sur une même surface de sommeil, c'est-à-dire dans le même lit ou dans un lit à côté?
Non, dans le même lit avec ses parents. Mais ça peut être, quand je dis surface de sommeil, c'est qu'on a par exemple des familles qui s'arrangent pour coller un petit lit au grand lit, ce qui fait qu'on a une même surface de sommeil, mais avec une place aussi pour le bébé. C'est aussi du cododo, ça.
Donc il y a des lits spéciaux qui existent. Hein.
Oui, puis on peut bricoler aussi.
Ouais, on peut bricoler, c'est vrai, parce que les lits spéciaux sont chers.
Ils sont chers et puis ils existent depuis pas si longtemps que ça. Et ça fait fort longtemps que les parents ont bricolé bien avant.
Alors, vous avez des astuces bricole pour... On se met par terre, du coup, c'est mieux, finalement. Alors, de ne pas avoir de sommier.
Ça, c'est le côté sécuritaire. Effectivement, il y a des familles qui mettent des matelas par terre et qui dorment tous ensemble sur les matelas par terre. Après, le côté bricole, pendant longtemps, on a des parents qui ont utilisé des lits à barreaux en enlevant un côté des barreaux.
Il y a des lits à barreaux qui existent comme ça, d'ailleurs.
En collant le lit au lit des parents et en attachant solidement les deux châssis des lits pour qu'ils ne puissent pas s'écarter. Mais ça, on l'a fait depuis bien longtemps.
L'idée, c'est de garder un contact sensuel, un contact visuel aussi.
Alors, visuel, oui, au tout début, quand on a un tout petit et qu'on veut surveiller qu'il aille bien. Mais c'est surtout le fait qu'un enfant dort pas forcément très bien tout seul et que beaucoup d'enfants dorment beaucoup mieux quand ils sont rassurés par la présence de leurs parents et qu'ils peuvent toucher leurs parents. C'est tout simplement ça.
Donc c'est quand même le contact le tactile qui prime. Est-ce que le cododo favorise l'allaitement en termes aussi de ne serait-ce qu'en termes de montée de lait? Il y a le côté pratique, effectivement, si le bébé est à côté, c'est quand même facile de le mettre au sein, mais est-ce que du coup, ça favorise aussi les montées de lait et comment ça se passe?
Alors, ça favorise surtout le fait que la mère synchronise ses cycles de sommeil sur ceux de son enfant. Et qu'en fait, quand son enfant se réveille pour téter, il ne la réveille jamais en sommeil profond. Il la réveille en sommeil léger, ce qui est beaucoup moins fatigant. Et on sait que les mères, du coup, sont en bien meilleure forme.
C'est assez magique, ça, cette histoire? Ou c'est scientifiquement prouvé?
Non, c'est scientifiquement prouvé. Le fait que les cycles de sommeil de la mère et du bébé s'accordent. De même qu'au niveau des hormones, on sait que, par exemple, les pères qui dorment avec leur enfant sécrètent plus d'ocytocine aussi. Il y a plein de choses qui se passent au niveau chimique et au niveau de la synchronisation entre les parents et leur enfant. Et plus l'enfant est proche de ses parents et mieux on synchronise.
Donc dormir ensemble, c'est pas forcément synonyme de moins bien dormir ou de dormir mal.
Ah non, en général, c'est même les parents le font pour dormir. Parce que se lever 3 fois par nuit, allaiter son enfant en étant assise, puis aller se recoucher, devoir se rendormir, pour certaines personnes, c'est difficile de se rendormir. Ça va quelques semaines, mais c'est épuisant.
Là, on reste, la mère reste dans une espèce de demi-sommeil,
c'est
finalement.
C'est ça, tout à fait.
En France, le cododo est très controversé pour des raisons de sécurité. Donc là, on a parlé, par exemple, de mettre les matelas par terre. Mais pour, et j'ai cherché, mais il n'y a pas d'études, en fait, qui prouvent que dans les pays où cette pratique est entrée dans les mœurs, le cododo, donc, comme la Chine, les États-Unis ou la Suède, il y avait plus de morts de nourrissons par étouffement qu'ailleurs, parce que c'est ça qui fait peur aux gens, c'est l'étouffement, ou alors que le bébé tombe. En Occident, on préfère quand même encore ce qu'on appelle, alors c'est drôle, le co-sleeping, ce qui veut dire exactement la même chose, sauf qu'on diffère le cododo du co-sleeping, parce que le cododo signifiant, le co-sleeping signifiant dormir dans la même pièce, mais pas dans la même surface.
Alors, en fait, les études sont très claires. Il y a eu des méta-analyses de toutes les études faites justement sur la mort subite du nouveau-né ou la mort inattendue du nouveau-né en fonction des conditions de couchage. Effectivement, en Occident, les conditions de couchage les plus sûres, c'est d'avoir un bébé qui dort dans la chambre de ses parents, dans son propre lit. Mais quand on regarde la différence avec les bébés qui dorment dans le lit de leurs parents en conditions sécuritaires, et ça, il faut que je détaille.
Oui, il faut que vous détailliez ces conditions.
La différence, elle est infime, elle est de moins de 1% de différence en termes de risque. C'est trois fois rien, la différence. Alors, les conditions sécuritaires, ça veut dire que le bébé ne peut pas passer sous la couette, n'a pas d'oreiller ou de coussin à portée de sa tête, hein, que les parents n'ont pas fumé, ne sont pas fumeurs, n'ont pas bu d'alcool, n'ont pas pris de médicaments qui font dormir, parce que ça modifie l'état de conscience, et que l'enfant ne puisse pas tomber du lit. Dans ces conditions-là, le cododo n'est pas un facteur de risque. Mais encore faut-il expliquer aux parents ces conditions-là. Or, si on refuse d'en parler sous prétexte de sécurité, on augmente les risques.
Et c'est pour ça qu'on en parle ici. Merci beaucoup Véronique Darmanjat. Oriane, Emmanuel, Émile, vous êtes également consultante en lactation. Alors vous, pour faire le lien avec ce qui vient d'être dit, cododo, co-sleeping, c'est un débat qui vous... voilà, qui vous parle.
Ouais. Bah, pour moi, il n'y a pas forcément de débat à avoir. C'est surtout le souhait des parents à respecter et surtout à accompagner. Puisque c'est vrai que des parents à qui on dirait « Non, surtout pas, ne faites pas de cododo », on sait que de toute façon, un jour ou l'autre, ils vont finir par en faire. Et le problème peut se poser s'ils n'ont pas été accompagnés en amont et n'ont pas eu justement les informations que vient de donner Véronique sur les conditions sécuritaires de cododo et qui du coup feraient ça un petit peu au petit bonheur la chance. Et dans ces conditions-là, effectivement, il pourrait y avoir des accidents.
Oriane, Emmanuel, Émile, le pot à pot à la naissance, autrement appelé le câlin d'accueil, qui est désormais proposé de façon quasiment systématique dans les maternités et maisons de naissance. Alors, à ce propos-là, le maternage proximal préconise de prolonger cette pratique à la maison, notamment en cas de crise de colique ou quand il y a des angoisses de fin de journée, etc. Vous aussi ?
Alors, en fait, il y a des recommandations qui ont été faites par l'OMS et l'UNICEF aussi, entre autres, concernant justement ce câlin d'accueil que vous appelez. Donc, en fait, dans l'idéal, le bébé et l'enfant et la maman devraient pouvoir bénéficier d'un minimum de 2 heures de peau à peau ininterrompue après la naissance.
Juste après la sortie du ventre, c'est-à-dire bébé non lavé, non nettoyé.
Voilà, tout à fait. Dans l'idéal, en fait, on devrait décaler un petit peu tout ce qui est les soins ou les faire directement sur la maman, ce qui n'empêche rien, de manière à ce que les deux ne soient pas séparés pendant au moins 2 heures après la naissance.
C'est pas ce qui se passe partout.
C'est pas alors, forcément.
Évidemment, parfois il y a des urgences à gérer. Oui, ça, on est bien d'accord. Mais là, on parle dans un cas où l'accouchement s'est très bien passé.
Voilà, bébé va bien, maman va bien. Effectivement, dans l'idéal, il faudrait pouvoir les laisser ensemble. Ça permet de commencer à créer des liens de proximité, d'avoir ce fameux eye contact avec son bébé, donc le contact visuel qui, on le sait, est très important pour le démarrage du lien d'attachement. Et dans tous les cas, effectivement, le pot à pot peut être fait à n'importe quel moment, tant que la maman et le bébé en ont envie.
Et comment on sait quand la maman en a envie, ça c'est facile de le savoir, mais quand le bébé en a envie?
Mais ça peut être par exemple un bébé qui va avoir qui va pleurer tout simplement, qu'on n'arrive pas à consoler. Ça peut être.
En gros, si ça marche, c'est qu'il en a envie, quoi.
Oui, et puis de toute façon, je connais pas de bébé qui n'aurait pas envie d'aller contre sa maman. Clairement, il a passé 9 mois dans le ventre, si tout s'est bien passé jusqu'au bout. Se retrouver un petit peu tout seul, habillé avec son petit pyjama qui sent bon la lessive, dans son lit tout plat, tout froid, etc. Je pense que la majorité des bébés préfèrent être sur leur maman.
Oui, parce qu'ils retrouvent l'odeur de la mère, les battements du cœur.
Absolument, il y a plein de choses qui se passent. C'est la synchronisation avec la respiration aussi. Et puis, ça permet au bébé de pouvoir, comme vous le disiez, voilà, se réchauffer et pouvoir garder toute son énergie pour pouvoir commencer à se développer et ne pas dépenser de l'énergie ailleurs.
Alors, pas de panique, quand ça n'a pas pu se produire tout de suite à la naissance, c'est pas forcément synonyme d'un grand, grand traumatisme. On peut rattraper un peu les choses.
Oui, tout à fait. Après, il y a aussi beaucoup de
matérialité. Le peau à peau, le bébé est tout nu ou en couche, hein.
En couche, oui, absolument. En fait, l'idée, c'est vraiment que les contacts soient faits de la peau de la maman à la peau du bébé. Donc, effectivement, directement sur la peau. Il y a de plus en plus de maternités qui proposent au papa aussi de faire du peau à peau en cas de césarienne, par exemple, où la maman serait en salle de réveil. Le peau à peau peut se faire avec le papa, avec les frères et sœurs aussi, de plus en plus, quand ils sont acceptés dans les services. Et puis, d'une manière générale, de toute façon, il n'y a pas forcément de bon moment particulier pour faire du peau à peau. La maman et le bébé pourraient rester comme ça autant de temps que ça leur fait du bien.
Et ça, on peut le prolonger à la maison.
Oui,
avec
tout à fait.
Les différents membres de la famille.
Absolument.
Y compris le chat.
Alors, le chat, ce sera du peau à poil.
Non, mais je veux dire que il y a ce rapport privilégié évidemment avec le corps de la mère qui a été la maison du fœtus pendant et du bébé pendant 9 mois, mais après on peut décliner ça avec les gens les plus proches, j'imagine, et encore à la maison, et combien de temps? Tant que l'enfant l'accepte, en fait, le bébé l'accepte.
Oui, tout à fait.
Ça arrive que ça dure longtemps ou pas, Véronique Darmanjah? Peut-être je vous repasse la parole sur ce sujet-là.
En fait, un enfant qui ne veut pas être en peau à peau, il le fait très bien sentir.
Comment il fait ?
Un enfant qui grandit, souvent, il va essayer de glisser, de s'échapper. On le sent très bien. Mmh. Et on voit très bien que les tout-petits adorent être en peau à peau. Si on continue, on va très bien sentir le moment où l'enfant, lui, il n'a plus envie, en fait. Et puis, une chose aussi, il y a certaines mamans qui n'apprécient pas le peau à peau pour diverses raisons. Avoir un bébé en body avec une maman qui a une légère chemise ou un t-shirt, le bébé, il est toujours très, très bien sur sa maman comme ça. On n'est pas obligé de faire du peau à peau si la maman le vit mal.
Pour en revenir à l'allaitement, Véronique Darmanjah, certains arguments contradictoires invoquent que les limites de l'allaitement tardif sont trop floues, en fait, que ça peut durer indéfiniment. Et je fais référence ici à la pédopsychiatre Myriam Sedger, je ne sais pas comment ça se prononce, qui a écrit « Le couple mère-enfant peut prendre la place du couple conjugal ». Il vous arrive de trouver des couples mère-enfant trop fusionnels dans vos consultations et de leur dire « Attention, là c'est trop fusionnel ». Ou c'est un argument aussi que vous entendez, ça ? Il ne faut pas que la mère et l'enfant soient trop fusionnels finalement, et dans l'allaitement, et ça peut être dans le cododo, ça peut s'exprimer par le pot à pot, cette fusion.
Alors, le côté trop fusionnel, à mon avis, on ne le trouve que quand on voit un enfant qui essaye de s'échapper un peu de ça et une maman qui le garde.
Qui ne le voit pas.
Mais ça, c'est très rare, finalement. Ce n'est pas le quotidien de ce qu'on voit. Et encore une fois, si le papa a sa place dès le départ, on n'a pas ce genre de choses. Ça peut plutôt se produire dans les familles où il y a déjà un problème de communication entre les deux parents.
Dans le couple, en fait.
Dans le couple. Ouais. Mais
et
c'est
que
pas l'enfant qui
s'est pas... devient un refuge
Mais ça devient un alibi aussi. Mais le problème de départ, il n'est pas au niveau de l'enfant.
Auriane, Emmanuel, Émile, qu'est-ce que vous conseillez aux mères qui vous consultent quand, j'en sais rien, peut-être elles se plaignent de ne plus assez trouver de temps pour elles, pour leur couple ou pour leur sexualité? On entend dire aussi, finalement, l'allaitement, le cododo, c'est un bon moyen de contraception, et certains disent tant mieux, d'autres disent ouais, ça casse le couple. Vous avez des conseils pour garder une sexualité pendant cette période? Alors peut-être pas de fusion, mais voilà, de proximité entre la mère et l'enfant.
Donc je pense que c'est intéressant que déjà les parents puissent garder une certaine forme de communication. De toute façon, effectivement, plus il y aura de communication au sein du couple et plus les choses seront acceptées par tout le monde. Et puis, concernant la sexualité, même si on fait du cododo, des choses comme ça, bah, se rappeler qu'il n'y a pas que la chambre conjugale pour se retrouver. Et ça peut aussi, du coup, amener à faire jouer un petit peu l'imagination, à ramener un peu de piment dans le couple. Et au contraire, faire en sorte que ça se passe bien pour tout le monde.
Le portage du bébé, ça fait aussi partie des grandes pratiques défendues par le maternage proximal. Et vous êtes aussi une spécialiste, Oriane Emmanuel-Émile, de cette pratique. Vous pouvez nous expliquer ce que vous enseignez aux femmes et aux hommes, d'ailleurs, mm-hmm. en tant que monitrice de portage.
Donc, souvent, je vois les parents soit en prénatal, soit en postnatal. Donc, c'est des mamans que je reçois à partir de... des mamans et des parents que je reçois à partir de 7 mois et demi de grossesse, à peu près. Et puis donc je leur explique un petit peu donc la physiologie de l'enfant, savoir comment reconnaître en fait les signes que l'enfant justement a besoin d'être porté, comment le porter de manière le plus agréable possible pour tout le monde. Et puis donc on voit aussi ensemble différents types de moyens de portage pour que les parents puissent trouver le moyen de portage qui leur convient le mieux et qui pourra leur être utile au quotidien.
Alors écharpe ou porte-bébé ?
Alors, tout dépend déjà de l'utilisation qu'on va en faire, du temps de portage qu'on va pratiquer, et puis de la manière dont on va se déplacer aussi, puisque plus on va porter un enfant longtemps en durée sur un même moment de portage, et plus on va être amené à marcher beaucoup. Par exemple, j'ai des parents qui partent très tôt faire de la randonnée. On va proposer quelque chose qui va pouvoir accompagner le corps du bébé et du porteur le plus possible.
Donc, une écharpe.
Et dans ces cas-là, ce sera plutôt l'écharpe, effectivement.
Et le porte-bébé, c'est plus occasionnel, si j'ai bien compris ?
Tout dépend encore une fois de l'âge de l'enfant. À partir du moment où l'enfant est bien tonique, qu'il sait bien protéger son dos tout seul avec une musculature suffisante, qu'au niveau des hanches aussi, il a acquis une certaine maturité des hanches, on peut proposer facilement des porte-bébés préformés pour ce type d'utilisation.
Quand les couples viennent vous voir avant la naissance du bébé, à quoi ça sert finalement ces cours de portage, puisque le bébé n'est pas là, vous avez un poupon, ça se passe comment ?
Oui, absolument.
Vous montrez sur le papa qui n'a pas le gros ventre.
Alors les deux parents essayent effectivement, donc j'ai des poupons lestés absolument. Et puis alors l'intérêt de le faire en prénatal, c'est que ça permet aux parents de pouvoir porter tout de suite l'enfant dès la maternité, parce que quand on vient d'accoucher, même si on a très envie de faire un atelier de portage, les journées passent très vite. Quand on a un nouveau-né, on n'est pas forcément non plus aussi très en forme en fonction des conditions d'accouchement. Et donc, il y a certains parents qui n'arrivent pas à mettre en place un atelier de portage suffisamment rapidement pour pouvoir combler leurs besoins aussi de soulager leurs bras, leur dos, tout en répondant aux besoins de leur enfant.
Alors, c'est ça, parce que finalement, le portage, il y a plusieurs utilités. Il y a porter pour aller se balader dans la rue, etc. Mais il y a aussi des adeptes du portage à la maison.
Oui, tout à fait.
C'est-à-dire qu'ils mettent le bébé en écharpe. En porte-bébé, je ne sais pas, à la maison, mais peut-être plus en écharpe. Pourquoi, finalement ?
Le but premier du portage, je dirais, c'est que ça permet de retrouver déjà ses deux bras. Donc ça, c'est plutôt intéressant.
C'est libérateur des bras,
voilà,
c'est-à-dire
absolument.
Qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps le bébé dans les bras.
Donc ça permet de retrouver une certaine autonomie aussi, parce que quand on est coincé sur le canapé avec son petit nouveau-né, le quotidien, on ne peut plus faire grand-chose. Donc effectivement, ça permet de libérer les bras, de pouvoir manger aussi accessoirement, parce que du coup, on peut avoir une main libre pour pouvoir amener la fourchette à la bouche, ça peut être pas mal. Et puis, quand on a un grand, par exemple, un grand, mais qui est encore petit, par exemple, des parents qui auraient un premier d'un an et demi, deux ans, par exemple, il faut continuer à pouvoir s'en occuper, l'amener à l'école, pour peu qu'on soit sur Paris, avec des escaliers, des petits ascenseurs, etc. Une poussette, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Donc, effectivement, le portage, même à la maison, ça peut être quelque chose de très utile.
Et le mal de dos, qu'est-ce qu'on en fait ?
Eh bien justement, le fait...
On vient vous voir, en fait, pour pas avoir mal au dos.
Absolument.
Pour savoir comment faire.
Voilà, parce que c'est vrai qu'un bébé, dans tous les cas, on va être amené à le porter de toute façon. Et c'est vrai que le fait de pouvoir porter son bébé dans un moyen de portage, ça permet de recentrer bébé sur son propre centre de gravité et de ne pas se pencher pour compenser et de, du coup, développer des maux de dos ou des maux de bras, la fameuse tendinite de la jeune maman, des petites choses comme ça, qui peuvent être soulagées avec le portage.
Oriane, Emmanuel, Émile, à partir de quel âge est-ce que vous préconisez ? Ça, c'est la grande question. On voit tout sur Internet de porter le bébé face à l'extérieur. Alors, ce qui peut être porté dans les deux sens, face à la maman, face à l'extérieur, et même un peu sur le côté, enfin, je ne sais pas comment on dit, deux, trois quarts,
sur la hanche. Alors, concernant le portage, donc, on appelle face au monde, donc c'est le bébé qui serait tourné face à la route, on dirait. Il y a des préconisations qui sont à prendre. Donc, de manière générale, on aurait tendance à ne pas mettre un enfant de moins de 6 mois dans cette position-là. Pourquoi ? Parce qu'un enfant qui serait face au monde est face à plein de stimulations. Et donc, c'est surtout par rapport au cerveau qui se passe beaucoup de choses. Et donc, par rapport à son cerveau et l'intensité des informations qu'il pourrait recevoir, il faut pouvoir le protéger et qu'il puisse aussi avoir la possibilité de se rassurer contre son porteur, contre son parent. Et donc, forcément, quand on est face à la route, c'est un peu difficile de pouvoir se réassurer contre sa figure d'attachement. Donc par rapport à ça, voilà, pas avant 6 mois. Dans tous les cas également, pas plus d'un quart d'heure, puisque encore une fois, ça fait beaucoup d'informations à gérer pour un cerveau petit. Et aussi, on préconise que ce soit dans un lieu connu et calme de bébé. C'est-à-dire, on va éviter de le faire dans le métro, dans les centres commerciaux, les aéroports, les choses comme ça. Mmh.
Et aussi, pas plus d'un quart d'heure au début, après on peut...
Non, dans tous les cas, pas plus d'un quart d'heure.
Dans tous les cas.
Parce que ça fait vraiment beaucoup d'informations.
Même quand il est grand ?
Même quand il est grand.
Et alors, quand est-ce que ça s'arrête, ce fameux portage ? Quand l'enfant l'a décidé, et le parent aussi ? Quand alors, il est trop lourd, tout simplement ?
En fait, souvent, les parents pensent que ça peut être une bonne idée de mettre l'enfant face au monde lorsqu'il commence à développer une certaine attirance pour une certaine curiosité, en fait. Alors que si on décale l'enfant et qu'on le porte, par exemple, comme vous disiez tout à l'heure, un petit peu sur le côté, sur la hanche ou dans le dos, l'enfant a une bien meilleure vue d'ensemble sur ce qui se passe, et donc ça suffit à pouvoir participer à l'éveil de sa curiosité. Donc on n'a pas forcément besoin de le passer face au monde. Et pour ce qui est du portage, la seule limite qui va être, c'est la douleur au dos qu'on pourrait ressentir avec un certain poids. Mais encore une fois, à partir du moment où le poids est un petit peu trop important, on peut à ce moment-là passer sur des préformés qui sont plus adaptés pour la répartition
des porte-bébés préformés.
Voilà,
c'est ça.
Tout à fait. Qui seront, et là, ça, il y en a, donc il y a différentes tailles. Ça va jusqu'au preschool qui correspond à peu près à du 6 ans.
C'est bien ça pour les papas, non ?
Ah bah pour tout le monde, même les mamies. Moi je peux vous dire que ma mère, quand elle prenait ma fille, elle me disait tu me ramènes ton truc là, ton sac à patates.
Et elle portait votre fille
Elle la porte encore, non, elle a 4 ans aujourd'hui, elle, quand elle la prend au week-end, elle me fait une crise si j'ai le malheur d'oublier le porte-grande. Maintenant, ma fille m'a dit que ça ne s'appelle plus un porte-bébé, ça s'appelle un porte-grande.
Ah oui, eh oui, évidemment. Et ça change tout, comme ça.
Ah oui, oui, c'est extrêmement pratique. Puis, elle s'endort encore dedans, par exemple. Donc, quand on voyage ou quand on fait des sorties, bah, c'est toujours... je peux vous dire qu'une grande de 4 ans qui s'endort, une fois, j'avais mal au dos. J'ai pas pris mon porte-bébé en me disant j'ai mal au dos, je vais pas la prendre. Elle s'est endormie dans le métro, bah, j'ai quand même dû la porter. J'ai bien regretté de pas avoir mon porte-bébé.
Ouais, c'est une aide aussi pour les porter. Ouais. Merci beaucoup, Oriane, Emmanuel, Émile. Je repasse la parole à Véronique Darmanja pour notre première pause musicale. Qu'avez-vous choisi, Véronique, qu'on écoute avant de passer la parole à Bertille Poincelet pour parler de la langue des signes avec les bébés et à Gilles Vaquier. Ils sont très sages tous les deux, ils attendent leur tour pour prendre la parole, mais on va faire une petite pause avant. Véronique.
Alors moi j'avais choisi « C'est quoi un ventre ?» de Linda Lemay, qui a un côté un peu humoristique et en même temps, tout part de là finalement.
Bah oui, tout part de là. On revient à la genèse. « C'est quoi un ventre ?» de Linda Lemay sur l'album de 2016 des Décibels et des Silences. Restez avec nous, chers auditeurs. On parle dans quelques instants langage des signes, communication visuelle et puis on parle aussi du rôle des pères dans tout ça. À très vite.
Un ventre, c'est quoi un ventre ? Un tas d'organes, un sac de tripes, au creux d'une gaine ou bien d'un slip. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est ce qui déborde et ce qui dépasse lorsque la mode est aux tailles basses. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est une rondeur qui embarrasse les amateurs de cuisine grasse. C'est ce qui donne mauvaise allure à tous les friands de friture. C'est des abdos comme de la brique ou de la guimauve élastique. six qui gargouille en plein silence dans une salle de conférence. C'est un espace modulable selon ce qui se passe le soir à table. Selon les critères de beauté, c'est un complexe ou une fierté. C'est une famille de papillons quand l'amour brille à l'horizon. Un ventre, c'est quoi un ventre? Lorsque c'en est un féminin, c'est souvent doux comme du satin. Ça a des crampes mensuelles, ça fait souffrir les demoiselles. Et puis un jour, ça devient beau, ça devient lourd, ça devient gros, ça devient rond, c'est insensé, grand comme une maison de poupée. Tout le monde s'en vient le caresser. Il y a des coups de poing, il y a des coups de pied. On voit les vagues de l'extérieur. On sent que nage un petit cœur. La peau s'étend, la peau s'étire. Plus on attend, plus ça déchire. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est là que s'en va se blottir le petit bébé qui vient de sortir. Un ventre, c'est quoi un ventre? C'est bien le nid le plus douillet que l'on aura connu jamais. Un ventre, c'est ça un ventre. Et puis tant pis pour les bourrelets, les petits replis sous les gilets. Ça reste ce qu'on a de plus beau. Un ventre, c'est notre berceau.
Bien-être ensemble.
De retour dans l'émission Bien-être ensemble, dédiée aujourd'hui au maternage proximal. Et après avoir parlé allaitement tardif, cododo, peau à peau, portage, nous allons parler du signage avec les bébés. Alors qu'est-ce que c'est ? Bertie Poincelet, à qui je n'ai pas encore donné la parole, est là. Elle est éducatrice spécialisée et animatrice et formatrice certifiée bébé, fais-moi signe. En France, la technique du signage est développée depuis le début des années 2000, mais elle a fait ses preuves aux États-Unis depuis près de 40 ans. Le maternage proximal en a fait un outil d'éveil, mais on parle plus volontiers de communication gestuelle associée à la parole. Bon, c'est une expression un peu plus longue que signage avec les bébés. Quelle est la différence entre la langue des signes et cette communication gestuelle associée à la parole, Bertie Poincelet?
Il est vraiment important de dissocier effectivement donc la langue des signes française, qui est une langue à part entière depuis 2005 en France, qui est la langue que pratiquent les sourds, qui a sa propre grammaire, sa propre syntaxe. Mm-hmm. On ne peut pas faire effectivement de la langue des signes avec les bébés entendants, puisqu'il est primordial avec les bébés entendants de toujours parler en même temps que l'on signe. Mm. Donc, pourquoi on appelle ça communication gestuelle associée à la parole? C'est qu'on vient piocher des signes issus de la langue des signes française pour appuyer nos propos, donc toujours parler en même temps que l'on signe. Donc, c'est pour ça que c'est très important de dissocier les deux.
Mais on peut dire signage, du coup?
On entend beaucoup d'appellations différentes. On entend le bébé signe beaucoup. On entend langue des signes pour les bébés. Mais ça, je mets plus de réserve parce qu'effectivement, il y a cet amalgame entre la langue des signes et la communication gestuelle associée à la parole. Bébé signe, on l'entend plus facilement.
D'accord. Comment on apprend alors à communiquer avec son bébé de cette manière? Est-ce que vous pouvez nous dire grosso modo quelles sont les étapes de cet apprentissage? Et à partir de quand ça commence déjà?
Il y a différentes manières. Il y a des parents qui vont avoir envie de se lancer seuls en regardant beaucoup sur Internet, ce qui peut être un peu compliqué puisqu'on peut trouver des fois des signes issus de d'autres langues des signes qui n'est pas forcément la langue des signes française. Et il n'est pas toujours aussi évident de bien comprendre le signe sur Internet. C'est de la 2D ou même de la 3D par les vidéos, mais de bien comprendre comment on fait le signe. Il y a des livres qui existent, mais ce qu'il y a Particulièrement, ce sont donc des ateliers bébés signes où donc des animateurs formés vont montrer aux parents tous les signes utiles à l'enfant lors de ces ateliers.
Parce qu'on ne peut pas finalement comme ça imaginer, allez moi j'ai envie d'apprendre à mon bébé, j'en sais rien, le mot manger, et je vais faire comme ça parce que c'est... Donc là je viens de mimer un geste que vous ne voyez pas chers auditeurs, mais voilà, je ne peux pas décider que j'associe tel geste à tel mot et que donc avec mon bébé... ça se passera comme ça. Ça, c'est pas au hasard. On prend pas ce qu'on veut comme geste et on l'associe pas au mot qu'on veut.
Bien sûr que si, parce que de toute façon, instinctivement, déjà, le signe manger, vous venez de faire le bon. Et de toute façon, la gestuelle, elle est déjà intégrée dans notre quotidien, que ça soit en tant que parent ou en tant qu'humain. Il est évident déjà qu'avec le jeune enfant, il va arriver assez vite à faire au revoir de la main, envoyer des bisous, parce que par mimétisme, il nous voit faire. Donc la gestuelle est déjà intégrée dans notre quotidien de parent. Pourquoi on utilise les signes de la langue des signes ? Parce que c'est une langue qui existe déjà, donc on peut piocher des signes existants.
Effectivement, ils sont faciles aussi à faire pour les petits, peut-être ?
Ce sont vraiment les signes de la langue des signes, adaptés à la motricité. Après, la motricité va se mettre en place. Les signes vont être un peu gauches au début, comme les premiers mots vont être un peu gauches au début. Et l'intérêt, justement, c'est de bien reprendre le signe, ce qui permet aussi à l'enfant de développer sa motricité fine.
Donc l'idée, c'est ça commence quand déjà ? À partir de quel âge ? Quelques mois ?
On peut signer dès la naissance avec un jeune enfant, puisque ça va apporter un éveil visuel en plus de l'éveil sonore. En atelier, on conseille davantage de commencer à partir des 6 mois de l'enfant, mais c'est davantage pour réduire l'attente parentale, parce qu'en effet, le parent, quand il commence à avoir l'envie de signer avec son enfant, a tendance à avoir envie que l'enfant signe assez vite. Et pour réduire un peu l'attente parentale entre le début des ateliers et l'acquisition des signes et le premier signe de l'enfant, on a tendance plutôt à conseiller d'attendre les 6 mois de l'enfant.
Parce qu'il y a donc un délai entre, évidemment, le moment où le parent signe et le moment où l'enfant, on dit quoi, répond, c'est ça ?
Oui, se met à signer, bah, comme tout, et comme tout développement.
Quand on dit qu'il se met à signer, c'est-à-dire que lui-même va faire juste le signe ou va commencer aussi, lui, à associer le signe au mot ?
Il va commencer à signer avant l'arrivée de la parole.
C'est ça.
Tout à fait, puisque les enfants les plus précoces peuvent commencer à signer à partir de 8 mois.
Mais alors le fait de faire le signe avec donc les mains et de ne pas réussir à associer la parole avec, puisqu'il n'est pas encore prêt à parler, est-ce que ce n'est pas une source de frustration ? C'est-à-dire, est-ce que l'enfant ne manifeste pas l'envie de parler comme fait son papa ou sa maman en face de lui, c'est-à-dire d'associer le mot au signe, et puis le fait de ne pas y arriver, est-ce que c'est pas une source de frustration ?
Non, parce qu'on est dans une période où l'enfant, justement, n'a pas la capacité de communiquer verbalement, et le signe permet justement de répondre aux frustrations qui sont dues aux incompréhensions. Et donc, au contraire, ça vient apporter un plus dans la communication entre l'enfant et son parent, et va plutôt réduire les frustrations qui sont dues au manque de compréhension, et non en créer de supplémentaires, au contraire.
Alors, Edith Dupont, pédiatre attachée au service ORL de l'hôpital Robert Debré, précise en avant-propos du livre « Mes premiers mots du bout des doigts » sorti cette année chez Belin Jeunesse, l'utilisation de la langue des signes ne ralentit en rien l'apprentissage de la parole, mais il faut veiller à bien respecter le rythme de votre enfant et son intérêt pour cette communication. Donc, pas de retardement dans l'acquisition du langage verbal, je ne sais pas si on dit comme ça, langage verbal, à cause du signage avec les bébés, on est bien d'accord.
Tout à fait, on l'entend encore beaucoup, que ça pourrait retarder le langage, ce qui n'est pas vrai en soi, à partir du moment où on signe toujours en même temps que l'on parle, et c'est vraiment que ça, c'est vraiment primordial. L'enfant, le parent va s'arrêter de parler, l'enfant va s'arrêter de parler, le parent s'arrête de signer, l'enfant va s'arrêter de signer. Mais effectivement, ça ne retarde pas le langage.
Alors, que proposent exactement les ateliers dont vous nous avez parlé, Bertille Poincelet ? Ça se passe comment ? Sur combien de temps ? Quand est-ce que le parent a acquis est-ce qu'il faut que le parent ait acquis le langage des signes pour pouvoir le faire avec son enfant ? Est-ce qu'il vient directement avec son enfant et c'est un apprentissage à deux ? Comment ça se passe ?
Donc les ateliers bébé fais-moi signe, c'est un cycle de 6 séances où le parent et l'enfant sont conviés. C'est un groupe de parents assez limité où on aborde à chaque séance un thème précis qui va être la journée de bébé, les émotions, les animaux. C'est vraiment un moment très ludique puisque effectivement signer avec l'enfant, il faut que ça reste de l'ordre du plaisir. Vous parliez tout à l'heure qu'effectivement il faut respecter le rythme de l'enfant. C'est vraiment de l'ordre du plaisir et donc c'est très ludique. On va beaucoup chanter lors de ces séances, raconter des histoires, signer, jouer pour encourager les parents à prendre autant de plaisir aussi après à la maison à signer avec leur enfant.
Et alors quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans la mise en place de ce type de communication gestuelle avec les tout-petits? Quels sont les retours, les témoignages des parents? Qu'est-ce qui peut les freiner et comment répondre à ces freins?
Les deux principaux freins qui sont ramenés par les parents, le premier c'est celui que je vous ai évoqué, c'est quand l'enfant ne signe pas alors que le parent a commencé les ateliers ou a même fini l'atelier et l'enfant ne signe pas encore.
Donc de la frustration et à la fois un peu de la peur que ça ne marche pas?
Du parent, je ne sais pas si c'est de la frustration, c'est plutôt l'envie que du coup que l'enfant communique. Mais en fait, ce qu'on peut dire à ses parents, c'est qu'au contraire, c'est plutôt bon signe. Puisque le premier signe, en général, il arrive quand l'enfant, justement, n'arrive pas à se faire comprendre par ses parents. Et du coup, le premier signe arrive. Donc, tant que l'enfant ne signe pas, quelque part, c'est que l'enfant se sent compris par ses parents. Et la deuxième difficulté, c'est de l'ordre de signer de manière naturelle avec son enfant. Puisque effectivement, ça, c'est vraiment pas évident. C'est une toute nouvelle habitude à prendre. On leur explique effectivement que plus on est naturel, plus on prend du plaisir, plus l'enfant va prendre du plaisir à signer. Mais effectivement, changer son habitude, se rappeler des signes qu'on a appris, signer en même temps que l'on parle, et aussi être face à son enfant. Dans notre culture entendante, c'est vrai qu'on a tendance quand même à parler à nos enfants, à se parler entre nous, des fois en faisant autre chose. Quand on signe avec son enfant, on est dans un face-à-face, on est dans une posture bienveillante vis-à-vis de son enfant. Et ça, ce sont des nouvelles habitudes à prendre. Donc effectivement, on peut sentir des parents qui disent que c'est assez long, que ça devienne naturel, d'où l'intérêt vraiment de signer et signer pour que ça devienne une habitude de plus en plus facile à faire au quotidien.
Donc les intérêts, les bienfaits du signage avec les bébés, c'est leur donner un outil de communication avant qu'ils aient acquis la parole, leur créer une relation de confiance aussi, de complicité dans cette communication.
Tout à fait, puisque donc on va permettre à l'enfant de communiquer plus tôt, puisque comme je vous ai dit, les premiers signes peuvent arriver à partir des 8 mois de l'enfant, alors que les premiers mots vont arriver davantage entre 15 et 24 mois. Donc c'est quand même des mois et des mois de communication à gagner avec son enfant. Et un enfant qui se sent compris est un enfant qui a davantage confiance en lui. Donc forcément, au niveau du lien d'attachement entre le parent et son enfant, effectivement, c'est un bénéfice non négligeable. Ça crée du lien davantage, effectivement, puisque l'enfant va partager ses besoins, mais il peut aussi partager ses envies ou avoir envie de partager des choses de sa journée, par exemple.
Et puis exprimer ses émotions aussi.
Et exprimer tout à fait ses émotions.
Déjà, quand on maîtrise le langage verbal, on a du mal à le faire. Donc parfois, peut-être qu'avec les signes, ça peut être
Et ça arrive effectivement facilité. Que des enfants arrivent plus facilement à signer une émotion plutôt que de la verbaliser
oralement.
Tout à fait.
Et peut-être un parent aussi, d'ailleurs.
Oui, mais les parents se mettent à signer. Quand les deux parents signent, ce qui est assez intéressant aussi, c'est que ça crée de la complicité dans le couple, de pouvoir communiquer à travers une vitre ou dans une pièce où il y a plein de monde et on peut communiquer sans que personne nous comprenne. Voilà, il y a de la complicité aussi dans le cercle familial.
Ne jamais laisser pleurer un bébé, c'est un des grands principes du maternage proximal dont on n'a pas encore parlé. C'est aussi un des buts, éviter les pleurs du signage avec son bébé, Bertie Poincelet.
Effectivement, en fait, les signes, à partir du moment où ça va permettre à l'enfant de communiquer plus tôt, vont permettre à l'enfant de réduire les colères et les frustrations dues au manque de compréhension et donc effectivement de réduire les pleurs.
Véronique Darmanja, parce que les pleurs sont faits pour être entendus et parce qu'ils engendrent aussi un afflux important d'hormones de stress toxiques comme le cortisol, qui à haute dose est un poison pour le cerveau dont il endommage les structures et systèmes essentiels, les maternantes s'entendent à ne jamais laisser pleurer un bébé. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette règle, Véronique Darmanja? Comment vous vous positionnez par rapport aux gens qui vous consultent pour voilà, des soucis d'allaitement, de lactation, mais aussi voilà, dans le cododo, etc. C'est une question qui revient souvent.
Qu'est-ce
ça
qu'on appelle un bébé, déjà? Ça, c'est important. Laisser pleurer un bébé seul dans son lit, je ne vois pas l'intérêt, à part effectivement le stresser beaucoup.
Alors, qu'est-ce que vous appelez un bébé, là, vous, du coup, dans ce cas-là, un nourrisson?
Disons que jusqu'à un an, pour moi, c'est un bébé, quelque part. Mmh. Et puis après, ça m'arrive d'aider des parents, par exemple, à sevrer leur enfant parce que pour eux, le moment est venu, mais ils ont du mal à le faire. Et parfois, sevrer un enfant la nuit quand il a 18 mois, c'est un peu sportif. Hein. Mmh. Et je leur explique que oui, leur enfant va pleurer parce qu'il va leur dire qu'il n'est pas d'accord et qu'il a besoin de le dire, qu'il a besoin de l'exprimer et qu'il a besoin qu'on l'entende. Et pour moi, ça n'est pas laisser pleurer un bébé, c'est autoriser son enfant à pleurer, mais être là pour l'accompagner, le prendre dans les bras, le rassurer. Et c'est extrêmement différent.
Mmh. Autoriser, c'est vrai que c'est une notion qu'on n'entend pas souvent. C'est-à-dire qu'on peut autoriser un bébé à pleurer tout en l'accompagnant.
Oui, mais à quel âge il a ? Enfin, après, vous avez aussi des petits nourrissons qui ont mal et qui pleurent, qui pleurent parce qu'ils ont mal. Mmh. Et ces bébés-là, ils ont besoin qu'on les prenne dans les bras, qu'on les rassure, qu'on essaye de les soulager. Et parfois, on ne peut pas les soulager. Malheureusement, c'est la vie. Mais de les avoir dans les bras, ça n'a rien à voir avec le laisser pleurer seul dans son berceau.
Donc, pas les laisser pleurer seuls, tous les cas, selon vous. Oriane, Emmanuel et Émile, pris dans les bras au premier appel, mis au sein à la demande, les bébés et nourrissons maternés nés pleureraient moins au final. Alors pas seulement parce que leurs besoins sont comblés tout de suite, mais aussi parce que ils deviendraient plus calmes et plus confiants à force justement d'être pris dans les bras, parce que leur système nerveux est aussi moins perturbé par cette hormone dont j'ai parlé il y a quelques instants. Mmh. Vous avez constaté ça aussi à l'occasion des ateliers de portage que vous faites?
Oui, effectivement, hein, on sait que les bébés, mais comme vous en parliez tout à l'heure de Bowlby, ça fait partie du lien d'attachement en fait. Et effectivement, un bébé qui est en phase avec ses figures d'attachement et qui a ses besoins de proximité qui sont comblés n'aura pas besoin de pleurer tout simplement.
Bertille Poincelet, pour en revenir au signage avec bébé, comment cette pratique se traduit-elle quand le bébé grandit et acquiert la parole? Qu'est-ce que ça devient? Il continue à signer? Il signe d'une autre manière?
L'enfant signe tant que le parent signe. En atelier, j'ai beaucoup de parents qui me disent « Moi, je ne comprends pas, mon enfant ne signe plus. » Et alors, quand je leur demande « Est-ce que vous signez encore ?» Ça ne l'ouvre pas, ils me disent « Non. Ah. » Donc, tant que le parent va signer, l'enfant va continuer à signer. Effectivement, si le parent s'arrête de signer, l'enfant ne signera plus. Ça, c'est un fait. Avec les parents qui continuent à signer, effectivement, il y a d'autres intérêts qui vont venir pour ces enfants-là. Ça va les aider dans la construction du langage oral, justement, parce que beaucoup de signes se font de manière phonétique. Donc, au niveau de la construction du langage, des mots un peu complexes à trois syllabes, comme coccinelle, ça va leur permettre, justement, de bien construire.
Comment vous signez coccinelle ?
C'est coccinelle.
D'accord.
Et donc, effectivement,
on fait
trois gestes pendant le signe coccinelle. Et l'enfant qui va commencer à parler va dire en général « cinelle ». Et l'enfant signeur va dire et faire le signe « cinelle » et va se rendre compte qu'il lui manque quelque chose. Effectivement, ça va être une aide au développement du langage oral. Et puis, il y a tout ce que je vous disais tout à l'heure, le développement de la motricité fine, effectivement, où du coup, les enfants plus grands vont prendre plaisir à du coup, bien mettre le positionnement des mains. Ils vont prendre du plaisir, justement, à vraiment bien faire le signe, notamment le signe des animaux, qui plaît encore beaucoup aux enfants qui parlent bien, ce que je vois beaucoup avec mon fils.
C'est-à-dire le signe des animaux, c'est-à-dire qu'ils continuent de signer à chaque fois qu'ils disent le nom d'un animal.
Tout à fait. Ils prennent du plaisir, puisque c'est vrai qu'avec les comptines, les histoires signées, même les plus grands, 2, 3 ans, et même les grands frères, grandes sœurs, on peut en avoir jusqu'à 10 ans, qui prennent beaucoup de plaisir à signer aussi.
La musique, elle accompagne aussi le signage, les comptines, vous avez dit il y a quelques instants.
Tout à fait.
Ça fait partie de vos ateliers ou c'est votre touche à vous?
Non, ça fait partie des ateliers Bébé Fouet Moi Signe. On fait effectivement beaucoup de comptines, déjà parce que les comptines sont effectivement très importantes dans le développement de l'enfant. C'est un éveil sonore. Quand c'est accompagné de signes, c'est un éveil aussi visuel. On sait que chanter, ça libère les tensions de l'enfant et de celui qui chante. Donc on encourage beaucoup justement à chanter avec son enfant. Alors on sent des fois ceux qui sont un peu plus timides en atelier, donc on espère qu'à la maison, ils le sont un peu moins quand il n'y a personne d'autre qui les regarde. Mais effectivement, chanter, c'est vraiment de l'ordre du plaisir pur entre le parent et l'enfant. Et puis, c'est aussi permettre aux parents de montrer plein de signes à l'enfant quand c'est justement pas facile de le faire au quotidien.
Donc, vous chantez et vous faites une petite chorégraphie avec les mains, finalement, en même temps.
Voilà, on accompagne la comptine des signes associés, tout
à fait. Vous pouvez nous montrer un exemple ou c'est trop vous demander, là,
allez, c'est
comme
parti.
Ça, à la radio. Ah ouais, vous êtes
c'est parti.
Hyper motivée. Je vous filme. Si vous êtes d'accord ou pas?
Je suis d'accord.
Et je mettrai cette petite vidéo sur le Facebook de la radio, comme ça, ça donnera aussi à nos auditeurs et auditrices une idée de ce que ça donne.
Très bien.
Donc, Bertille Poincelet qui va nous proposer une comptine tout en signant, et c'est quelque chose que vous pouvez reprendre chez vous avec votre bébé ou votre enfant. C'est parti.
Je suis un bébé qui aime s'amuser avant de... Parler, je veux pouvoir signer pour te dire ce que j'aime, pour te dire que je t'aime et pour que tu me comprennes.
Merci. J'ai reconnu cette musique quand même. Hein. C'est une sacrée musique. Je ne sais. Vous avez l'auteur, le compositeur de cette mélodie?
Pas du tout.
Bah moi, je peux vous dire que c'est la musique qu'on entend dans la maison des poupées à Disneyland.
Ah oui, tout à fait, exact.
Et qu'une fois qu'on l'a entendue une fois, on s'en souvient toute notre vie.
Mais ça reste. Et
du coup, après, elle est extraordinaire, celle-ci.
Effectivement, je me suis déjà fait la réflexion que c'était effectivement la même musique.
Merci.
C'est une comptine qu'on aime beaucoup.
Merci beaucoup, Bertille Poincelet. Je vais passer la parole à Gilles Vaquier sur le signage avec bébé. Vous n'avez pas encore parlé, Gilles. Peut-être
oui, bonjour.
Bonjour, vous êtes donc le seul papa ici présent. Peut-être juste déjà une réaction sur ce qu'on vient d'entendre, sur le signage avec bébé. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà pratiqué, que vous proposez dans vos ateliers pour les futurs papas? C'est quelque chose que peut-être vous aimeriez mettre en place? Une réaction?
Alors c'est quelque chose que je n'ai pas pratiqué, que j'ai découvert après et qu'au jour d'aujourd'hui je regrette.
Ah oui, il voilà. Ne faut pas regretter.
Bah si, je regrette, parce que j'aurais aimé le faire. Mais
avec vos deux filles, donc.
Oui, tout à fait. Et puis, je m'aperçois des vertus que ça peut, amener. Donc,
Elle vous a convaincu.
Ah, j'étais convaincue avant, mais là, je suis encore plus, parce que c'est vrai qu'on voit qu'elle maîtrise...
Ah oui, mais tout peut changer. Vous pouvez aussi faire des choses maintenant pour proposer ça au papa dans vos ateliers.
Oui, alors justement, moi, j'en parle. Je leur parle de l'importance de signer avec bébé. J'ai eu donc des intervenants, des spécialistes qui sont venus pendant un court moment, expliquer donc l'importance de signer avec bébé. Et c'était pas Bertille, mais peut-être qu'elle viendra à un prochain atelier. Et moi, je leur... Voilà, on en parle, je leur distribue des fiches, mais après, c'est vrai que je ne suis pas un pro du sujet, je ne m'étale pas là-dessus.
Oui, vous donnez des liens. Quoi.
Absolument, tout à fait.
Vous dites
oui.
Que ça existe et vous savez que ça
voilà,
existe.
Voilà, et que c'est important de le faire. Par contre, bon, c'est vrai que c'est quand même, de mon point de vue, hein, Bertille, je ne veux pas, mais ça demande quand même une assiduité. Il faut s'engager. Hein, c'est pas juste, on va le faire trois fois et ça va fonctionner. Il faut accepter aussi que ça marche pas du premier coup et qu'avant que l'enfant réponde, il va se passer de nombreuses tentatives.
Vous voudriez nous dire qu'être parent, maman, papa, ça demande de la patience en fait.
C'est le mot est faible.
Et qu'en pense Gilles Vaquier, donc notre papa ici présent, du fait de laisser pleurer ou pas bébé, et justement peut-être des distinctions qu'il y a à faire entre un bébé qui pleure, un grand bébé qui pleure, lui autorisé à pleurer, est-ce qu'il chouigne, est-ce qu'il pleure, est-ce qu'il fait des caprices, tout ça.
C'est ça, alors ça c'est une grande question chez l'homme.
Chez l'homme?
Oui.
Chez tout le monde?
Oui, enfin moi je reçois que les hommes, donc du coup... Mais je sais que c'est vraiment quelque chose qui leur... C'est la question du jour, on va dire, systématiquement.
C'est pourquoi mon bébé pleure-t-il et que puis-je faire?
C'est pas tant pourquoi, c'est cette histoire du pleur, est-ce que c'est un caprice, est-ce que c'est pas un caprice, finalement on en est où? Voilà, c'est,
et
ensuite c'est
quoi?
Pourquoi et qu'est-ce que je dois faire? Alors on leur répond que c'est pas un caprice, qu'il faut différencier un bébé qui chouine, il entre deux trains du sommeil. Il va prendre le prochain train, c'est pas la peine de se précipiter. Mais par contre comme ça a été dit
quand vous dites chouiner, c'est-à-dire vous pouvez me le mimer? Non, je rigole.
Non, ce serait un mauvais mime. Mais il chouine.
C'est-à-dire, il fait des petits sons
voilà,
qui ressemblent à des pleurs,
sons,
mais qui ne sont pas
mais
des.
Voilà, y a rien
et parfois, les larmes ne coulent pas.
Il n'y a pas de larmes. Hein, oui. Y a pas de larmes.
Ça, c'est un chouinement.
C'est un petit chouinement. Il est entre deux trains du sommeil, on attend le prochain train, et voilà.
Et normalement, ça
c'est
passe
pas la peine
vite.
De se précipiter, ça se passe rapidement. Mais dans tous les cas, moi, ce que je préconise fortement, et qui est surprenant d'ailleurs aussi, c'est de toujours apporter une réponse et d'autoriser, comme ça a été dit, et c'est très important, l'enfant à pleurer. Moi-même, comment dirais-je, que ce soit le nourrisson ou ma fille de 5 ans, c'est dans tous les cas la colère, enfin la raison du pleur, elle est forcément légitime et elle mérite d'être accompagnée.
C'est pas forcément de la colère, hein, ça peut être de la tristesse,
ça peut être de la
frustration,
tout à fait.
Mais c'est la peur.
L'élément déclencheur est forcément légitime.
Donc
voilà.
Quand vous dites accompagner, ça veut dire entendu et trouver une réponse, ou ne serait-ce que déjà entendu.
Ne serait-ce que déjà entendre, déjà, c'est comme quand on a une, on va dire, pour basculer sur la colère, ne serait-ce que de dire, je vois que tu es en colère, ne serait-ce que de mettre des mots, déjà, ou d'entendre, donc c'est déjà faire la moitié du chemin.
Ce que je comprends dans tout ce que vous me dites, c'est dans ne jamais laisser pleurer un bébé, on n'est pas dans l'idée de chercher tout de suite à étouffer ses cris.
Non.
On est bien d'accord.
On est bien d'accord.
On n'est pas dans l'idée de, on panique, il faut tout de suite que ça s'arrête dans la seconde. C'est
non.
Juste de chercher ensemble une réponse, une solution, et en
absolument.
Grandissant, peut-être que lui arrivera à trouver.
Tout à fait. On essaye de le faire rapidement, parce que c'est vrai que ça amène très rapidement un sentiment d'incompétence chez les parents, et beaucoup de questionnements, beaucoup d'inquiétudes. Donc, on essaye de trouver une solution rapidement à cela en tant que jeune parent. Mais il faut avant tout autoriser ces pleurs
pour pouvoir les entendre et pour pouvoir
y répondre absolument.
Votre position, Gilles Vaquier, sur le maternage proximal, l'allaitement tardif, le cododo, le pot à pot, le portage, les pleurs de bébé, comme on vient de le dire, ce sera juste après une nouvelle pause musicale que vous avez choisie et qui va nous conduire vers l'idée du paternage proximal. Quel est ce morceau, Gilles ?
Ah, c'est un morceau que j'affectionne particulièrement et qui va parler de lui-même.
Alors bah dites-moi, dites-moi le titre. Ou alors je vous soupçonnerais de l'avoir oublié.
Non, pas du tout. Non, non. Bah, je crois qu'on est sur le mot papa, quoi.
Voilà, papa de Big Flo et.
Et
Oli.
Et Oli, voilà, Big Flo et Oli.
Papa donc de Big Flo et Oli sur l'album La Vraie Vie, sorti en 2017. Bien-être ensemble, ça continue. Quelle est la place du papa dans le maternage proximal ? Restez avec nous, chers auditeurs, pour la suite de Bien-être ensemble sur Radio Médecine Douce. Notre espace commentaire vous est ouvert. A tout de suite.
Vamos, hijos ! Empezamos ahora !
Yeah, Big Flo Oli. Tu connais, non? Yeah. Désolé maman, ce texte sera pas pour toi. Je suis discret en vrai, mais en musique il faut que je parle. Sa voix vibrait dans mon oreille quand j'étais dans ses bras. Les chansons à la guitare, les bisous avec la barbe. Il parle de l'époque du lycée, avec mélancolie. Je m'endormis sur le canapé, je me réveillais dans mon lit. Il m'a laissé veiller devant les films que j'aimais bien. Il m'engueule jamais, le pire c'est quand il dit rien. On fait des matchs et je prie pour que ça dure. Il prend de l'âge, je l'ai lu dans ses courbatures. Et j'en tremble quand on se fâche par moments. Plus ensemble, mais il demande toujours pour maman. Il m'a transmis son charme et sa poésie. Mais j'ai aussi hérité de sa calvitie. C'est mon idole, avec lui rien n'est impossible. C'est un peu mon avocat, mon cuistot, mon taxi. Ses histoires et ses blagues quand il picole. Ses vieux pulls et ses chemises à auréoles. Maintenant c'est bon et bêtement on en rigole. Mais j'étais con et j'avais honte devant l'école. L'odeur du café le matin, la voiture, les souvenirs. Les au revoir, les câlins, ses blessures, ses soupirs. Ce sera toujours mon père et je reste son gamin. Et quand j'en aurai un, je lui parlerai du mien.
Celle-là c'est pour nos pères, nos padrés. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Ce qu'on regrette, ce qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padrés. Ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ce qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Et ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue. Aprendí que en la vida no vale más que papá, 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 papá.
Derrière moi depuis mes tout premiers papas, tous mes amis le trouvent vraiment très sympa. Ils les invitent à partager leur repas. Mon père c'est le meilleur mais ça se compare pas. Il héritait la jeunesse, l'a quitté. Comme tous les pères, il a l'air déprimé. Pensif dans le salon, je le vois à chaque fois. Je crois qu'il regrette l'époque où il était papa. Mon père c'est mon boss, mon roi, mon héros. Moi, je suis son gosse, son minot, son hero. Quoi ? Il tourne tous mes problèmes en dérision. Je suis une des raisons pour laquelle il peut finir en prison.
Quoi qu'il arrive, il accomplit sa mission. La berceuse du soir et les bisous qui piquent devant la télévision. Le sport devient une religion. La sueur des joueurs de foot devient de l'eau bénite. Si ton père n'est pas là, tu sais, ne sois pas triste. Tu évites les engueulades pour le bouchon du dentifrice. Et j'appréhende déjà le jour des grands adieux. Y'a pas de bon père, y'a que des hommes qui font de leur mieux.
Celle-là c'est pour nos pères, nos padrés, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait. Celle-là c'est pour nos pères, nos padrés, ceux qui disent je t'aime sans même parler. Pour ceux qu'on regrette, ceux qui sont pas passés. Mais si t'es papa, tu sais que t'es pas parfait.
Ya sé que soy viejo, nunca te olvidaré. Cuando miro al espejo, son mis hijos que veo. Me acuerdo del mío, y cuando se fue, aprendí que en la vida no vale más que papá.
Bien-être ensemble.
Troisième partie et fin de l'émission Bien-être ensemble, un épisode aujourd'hui consacré au maternage proximal, à savoir l'allaitement tardif, le cododo, le pot à pot, le portage, comment ça les connaître par cœur, le signage avec bébé, et pourquoi ne pas parler paternage proximal. C'est une question que je vous pose, Gilles Vaquier, vous qui êtes le fondateur de l'atelier du futur papa à Paris dans le 15e. Paternage proximal, ça vous plaît?
Oui.
Merci Gilles Vaquier.
Ah oui, ça, oui.
Bah alors, quelle en serait votre définition du paternage proximal?
Bah c'est ce que vous venez de dire, tourner côté père, quoi.
Ah oui, donc c'est exactement la même chose que le maternage proximal, mais version papa.
Voilà.
Alors.
Voilà, faut savoir quand même que les Akas, qui sont une tribu pygmée d'Afrique centrale, qui sont déclarés les meilleurs papas du monde, font même.
Déclarés par qui? Par eux-mêmes?
Je sais pas, c'est vrai, c'est une bonne. Faudrait que je creuse là-dessus. Mais ils font même téter leur enfant. Or, il n'y a pas de lait, mais ils font même téter leur enfant. Ils font 100% des tâches que, si j'ose dire, que font les mamans.
Ah bah alors, donc, parlons d'allaitement. Si on explore ce domaine-là, de l'allaitement tardif, comment le père peut-il trouver sa place dans l'allaitement maternel? C'est-à-dire que oui, vous me dites, ok, on peut mettre le bébé au sein. Mmh. D'accord, mais vous n'allez pas beaucoup le nourrir. Il va téter votre téton pour le plaisir, ça va l'amuser quelques secondes.
Oui,
mais il ne va pas y trouver beaucoup de lait.
Bah, évidemment.
On est bien d'accord. Et
on est bien d'accord.
Bon, alors comment le père peut trouver sa place dans l'allaitement? Qu'est-ce que vous conseillez en atelier du futur papa, par exemple?
Alors, pour trouver sa place, bah, évidemment, c'est pas évident puisque c'est pas lui qui va le faire, donc on est d'accord. Mais ça peut être si on peut faire. La nutrition mixte. Donc, pourquoi pas
L'allaitement mixte.
L'allaitement mixte, oui, ça peut être la possibilité pour lui de participer si évidemment l'enfant accepte. Parce que bon, il y a des. Moi, ma fille ne voulait que le sein. Ma femme pouvait tirer le lait, on pouvait le mettre dans un biberon, ça ne fonctionnait pas. Elle ne voulait pas du biberon. Déjà, quand elle voyait le biberon, elle hurlait. Donc, déjà, au moins, c'était clair. Donc, après, c'est vrai que prendre sa place, c'est peut-être pas la bonne chose, si j'ose dire. Moi, je dirais plutôt que c'était plutôt des activités en dehors d'être engagé en dehors de l'allaitement proprement dit. Puisque de l'allaitement, on n'est pas.
Alors, je vais faire juste réagir Véronique Darmanja sur l'allaitement mixte. On vient d'en parler. En même temps, Gilles parle de tirer le lait et de le mettre dans le biberon. Mais l'allaitement mixte, ça ne veut pas dire tout ça. Ça ne veut pas dire exactement ça.
Non, quand on parle d'allaitement mixte, on parle plus de donner des biberons de préparation pour nourrissons et allaiter.
Ce qui est une possibilité.
Oui. Alors après, ça dépend de ce qu'on souhaite faire et comment le faire. Si on veut que l'allaitement se poursuivre, on a tout intérêt à garder quand même un maximum de tétés si on veut que la lactation ne diminue pas trop. Hein.
Et donc, ce dont parlait Gilles à l'instant, c'est-à-dire que la femme tire son lait, le met dans un biberon et c'est le papa qui le donne, ça a un nom ou pas? Le tire-lait, comme nom.
Le tire-allaitement, à la rigueur, mais en fait, oui, il y a beaucoup de mamans qui ont envie de le faire.
Et de papa.
En fait, non, bizarrement, c'est plus les mamans qui disent « je voudrais que mon mari participe » que des papas qui « oui, moi je peux faire autre chose, je ne suis pas obligée de le nourrir aussi ». Donc en fait, tout le problème, c'est la vision qu'on a du bébé dans notre société où un bébé, en gros, ça mange, ça dort et
ça fait caca.
Ça fait caca, voilà. Et en fait, un bébé, ce n'est pas ça. Un bébé, il a besoin d'énormément de contact. Et le contact, il peut être autant sur le papa que sur la maman. Donc, à partir du moment où on part du postulat qu'un bébé a besoin d'être dans les bras, le papa, il a sa place complètement.
Et même au sein, finalement.
Alors, juste une petite précision, c'est que si un papa s'amuse à mettre le bébé au sein, au bout d'un moment, il va avoir du lait.
Ah, très intéressant.
Parce qu'il a une glande mammaire derrière ses mamelons. Donc, elle va se développer avec la succion du bébé. Et attention, ça veut dire que les seins, ils poussent, qu'au bout d'un moment, la voix
change. Ça peut être dangereux.
ça dépend ce qu'on veut, mais bon, c'est particulier.
D'accord. Alors, Gilles Vaquet, vous avez noté.
Non, je sais. Oui, c'est vrai que si on insiste, ça peut...
Ouais, bon, vaut peut-être mieux donner le petit doigt ou j'en sais rien. Qu'est-ce que vous préconisez dans ces cas-là? Si vraiment le papa veut donner la tétée et que le biberon, ça ne marche pas.
Ah bah, moi, j'ai connu un papa qui l'a fait, qui a développé une lactation pour son enfant. Mais encore une fois, c'est très particulier parce qu'on a tout...
C'est réversible ou pas? Parce que finalement, ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire, le bébé arrête de téter, c'est terminé, il redevient un homme.
Oui, c'est ça. Il a toujours été un homme, mais avec quelques petites choses particulières, des seins, une voix qui change, une féminisation en fait.
Incroyable. Sur le cododo, votre position, Gilles Vaquet.
Alors, juste pour terminer, pour votre question précédente, c'était de préciser que dans l'allaitement en soi, on ne pouvait pas être actif, mais c'était vraiment de dire qu'on pouvait, on a toute sa place dans le contact, hors évidemment l'instant où l'enfant est en train de téter. Je dis ça parce que les pères ont souvent tendance à attendre que l'enfant ait 8 mois, fasse son premier 4 pattes pour intervenir, et que au contraire, et moi, c'est ce que je leur dis, et je leur donne beaucoup de pistes là-dessus, beaucoup de petits jeux, de petites activités qu'on peut faire avec l'enfant dans cette période de 0 à 1 an.
Déjà le pot à pot.
Oui, déjà le pot à pot, oui, absolument, bien sûr.
On en a parlé tout à l'heure, c'est quelque chose que vous avez pratiqué.
Oui, complètement,
avec vos filles.
Oui.
Vous me dites ça avec un grand sourire.
Ah oui, 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 complètement. Ouais. Oui.
Et c'est quelque chose donc que vous préconisez.
Ah oui.
Et pour, dans le cas où ça n'est pas possible, justement, ou alors les maternités, c'est pas leur truc, etc., vous conseillez au papa d'insister et d'en parler avant, de dire moi je veux faire du pot
à
pot.
Tout à fait. Tout à fait. Et on, voilà, parce que c'est une nouvelle vie qui commence et on doit, que ce soit pour l'allaitement ou pour le pot à pot, aussi faire preuve de s'affirmer dans certains moments où c'est un moment dans la vie où moi je parle pour les hommes où il faut vraiment s'affirmer parce que on a un projet d'allaitement et qu'il y a des maternités où on vous dit bon mais ça fonctionne pas, allez on passe à autre chose entre guillemets, ou pour le pot à pot
alors on reparle de l'allaitement là, du coup vous dites si on a un projet d'allaitement, donc si ça ne fonctionne pas avec la femme, on est bien d'accord?
Oui, bien sûr.
On parle pas de la lactation qui n'arrive pas chez l'homme, où là à mon avis les maternités sont pas du tout prêtes. Donc si la femme, la maman, la future maman a un projet d'allaitement, que ça marche pas, qu'il y a des difficultés, là le père un rôle à jouer.
Oui,
et
la maman aussi, oui, tout à fait, de s'affirmer, de dire, nous, on patiente, parce que, c'est un nourrisson qui vient d'arriver au monde, il n'a pas forcément faim dans les premières heures, que, on va se donner les moyens d'y arriver. Il y a des maternités, on va vous dire, non, ça va jamais fonctionner, on donne une petite nourrette, et puis, on passe à autre chose, quoi.
Et donc, là, après, le papa joue un rôle de médiateur entre la maman qui désespère, et ce que disent les médecins ou les infirmières.
Oui, tout à fait. Il faut s'affirmer de manière générale. Quand on rentre dans la parentalité, ça peut être ça, ça peut être sur plein d'autres sujets, des gens qui viennent vous visiter, qui sont à moitié malades ou pas vaccinés par exemple, ou des choses comme ça, quoi, voilà.
Ou des gens qui viennent visiter la maman alors qu'elle en a pas du tout envie,
qu'elle est très fatiguée, voilà, ouais, tout à fait. La coqueluche, ça parlera peut-être pas, mais il y a des gens qui viennent vous voir. La coqueluche, ça se transmet quand on tousse, et c'est la première cause de décès par infection bactérienne en France, c'est la coqueluche. Faut quand même le savoir. Donc après, c'est aussi un moment des fois de s'affirmer et de dire, ben non, c'est non. Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui a poussé la porte de la maternité et qui a dit, oh là là, qu'est-ce que j'en tiens une en ce moment. J'ai dit, tu fais demi-tour. C'était le meilleur ami de ma femme. J'ai dit, tu fais demi-tour tout de suite, quoi. Bon, ça tombe bien, je l'aimais pas trop, mais c'était une bonne.
Mais... spéciale dédicace s'il nous entend.
Mais voilà, c'était aussi voilà, moi c'était une expérience, voilà, je fais part de cette expérience parce que c'est un moment aussi de s'affirmer, il faut s'affirmer.
Donc s'affirmer. Et alors sur le cododo, votre position Gilles Vaquier, vous avez fait ça, le cododo avec vos filles?
Oui.
Et
oui.
Alors du côté de la femme ou
alors moi j'ai
de
une
votre femme moi ou de j'ai votre côté.
Alors moi la recommandation que je vais donner en salle, ça va être de le faire dans un lit spécifique à proximité parce que ben concrètement moi j'ai vécu une très mauvaise aventure par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que ben moi je constate ben déjà on peut l'étouffer, enfin je me levais, je mettais ma fille au sein de ma femme et puis elles se sont endormies toutes les deux. Donc après on sait qu'on peut remonter la couverture et l'étouffer. Quand tous les trois dorment, on sait qu'on peut lui donner un coup, un lit. Et moi, je me suis levé le matin, il n'y avait plus d'enfant dans mon lit, d'accord. Donc, elle a rampé, elle est tombée, tout petit nourrisson. Hein, et donc, on n'a même pas entendu tomber. Et le matin, quand on s'est réveillé, je n'ose même pas vous imaginer. Donc, la brutalité du choc de ne plus avoir notre enfant dans le lit. Et ensuite, moi, elle est où? Ben, elle était à ma tête, derrière. Donc, voilà, les instants qui ont duré. Et après, la question, c'était, est-ce qu'elle va bien? Donc, grâce à Dieu, c'est une histoire qui se finit bien. Mais moi, fort de cette mauvaise expérience, moi, ce que je leur recommande, c'est de faire vraiment dans un lit à proximité, Chiconextomy, pour ne pas citer de marque, ou quelque chose vraiment qui soit vraiment adapté à cette situation et ne pas vivre la mauvaise expérience que moi-même j'ai vécue. Parce que ben, l'enfant, on sait que ça fait partie de l'instinct grégaire de ramper, par exemple, ne serait-ce que pour aller jusqu'au sein de la maman. Et ben, ça, voilà, ça, c'est une chose qui est c'est du réel dont je vous parle et donc je leur conseille de ne pas le faire.
En tous les cas, s'informer sur les mesures de sécurité, comme le disait tout à l'heure Véronique Darmanja et
Auriane,
Emmanuel et Emile, pas faire n'importe quoi, pas improviser.
Parce que dans la parentalité, on parle de beaucoup de choses sauf de la sécurité. Et, quand on connaît les chiffres en France, par exemple, pour prendre ne serait-ce que ce pays, bah, c'est vraiment catastrophique. Alors c'est vrai que c'est bien de s'inscrire dans la parentalité positive et bienveillante, de faire beaucoup de choses, mais il ne faut pas oublier la partie sécurité. Et si on la zappe, on n'est pas à 100%. Donc, le job, entre guillemets, ben, c'est aussi de prendre en charge cette partie de la sécurité. Et ça, les hommes, ils sont très attachés.
Les mamans aussi, mais peut-être qu'on
moi,
est un peu plus fatigué.
Moi, je rencontre que les hommes. Donc, les hommes que je rencontre, ils sont très intéressés par cette question. Oui, la maman est plus fatiguée, elle est dans autre chose. Donc, c'est peut-être le moment aussi d'aller acheter du matériel et puis lui dire, voilà, ben, l'atelier du futur papa, on a parlé de ça, il m'a recommandé ça. Voilà, les attaches-fenêtres, il faut les mettre avant que l'enfant arrive au moment de marcher. Par exemple, vous voyez, les coins de table, c'est avant qu'il a... Ça paraît logique, évidemment. Mais si on le fait pas tout de suite, on se laisse manger par le temps, comme le disait Auriane tout à l'heure. Et puis ensuite, on n'y pense plus, on le fait pas. Et moi, quand je leur dis, voilà, on se voit, c'est samedi, vous l'achetez dès lundi. Voilà, comme ça, au moins,
c'est clair.
Coin de table, protège-fenêtre, etc. Et c'est, voilà, on est tranquille.
Et le portage, Gilles Vaquier, alors pourquoi le conseillez-vous au futur papa? C'est parce aussi une belle expérience pour vous.
Ah oui. Ah oui, extraordinaire.
Vous êtes un vrai paternant, en fait.
Et moi, ma plus grande a 7 ans et ma femme n'arrête pas de lui dire, à 7 ans, on n'est plus dans les bras de son papa. Et ça ne s'arrête pas. Je lui dis, je te prends dans les bras tant qu'au maximum que je puisse te prendre dans les bras.
Elle est d'accord.
Elle est d'accord. Ma fille est d'accord, pas ma femme.
Ah, bon, là, il y a un autre souci à gérer.
Bah oui. Non, c'est magnifique. C'est vraiment une grosse recommandation également aussi, parce qu'on n'ose pas, parce que en tant qu'homme, moi je vous parle du côté homme, évidemment, des hommes que je rencontre, on se dit, ils ont peur de casser bébé, c'est l'expression qui revient souvent. Donc, on voit ça ensemble. Alors, moi, je suis pas un professionnel de cette partie-là, mais on voit comment il faut faire, ne serait-ce que déjà quand l'enfant dort, on peut le promener quand il dort, voilà, ça fait une activité, même s'il dort, il faut pas avoir peur de le sortir, même s'il dort. Et deuxièmement, de pas être avare de communication, et même s'il dort, lui dire, voilà, je vais te prendre, je vais te mettre dans le porte-bébé. Par exemple, ça fait partie des réflexes à avoir, de communiquer, d'être dans l'hypercommunication. Voilà.
Auriane, Emmanuel, Émile, est-ce qu'un papa porte de la même manière qu'une maman?
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de papas en atelier, mais quand il y en a, ils sont vraiment très, très impliqués.
Mais c'est les mêmes conseils avec eux, même conseils oui, pour les dos, même façon de porter.
Absolument, c'est exactement la même chose.
Ouais, et ils ont les mêmes envies, les papas?
Alors, souvent, les papas, eux, ils aiment bien les porte-bébés déjà tout faits, les préformés. Il y en a qui pensent d'avance qu'ils n'ont pas suffisamment de coordination pour pouvoir faire des nouages qui passent dans le dos, qui reviennent devant, qu'on reprend à droite, en haut, voilà.
Ils pensent qu'ils n'ont pas assez de coordination, oui. C'est étonnant ça.
Oui, oui, mais très souvent. Et donc c'est vrai qu'au niveau des...
Gilles Vaquier confirme. Mais en fait, c'est juste un manque de confiance en eux, parce que la coordination, ils l'ont en théorie,
je pense,
tout autant
oui,
que
oui,
nous.
Oui, tout à fait, je pense. Mais souvent, bah, du coup, quand ils sont accompagnés au cours des ateliers, ils se rendent compte qu'ils y arrivent très, très bien. Parfois même, ils disent à la maman, mais non, tu te rappelles pas, c'est pas là, ça c'est après. Non, ils sont vraiment très appliqués, les papas, en atelier, et sont souvent aussi très contents, du coup, de pouvoir porter, parce que ça permet justement au papa de commencer à travailler le lien avec son bébé. Et de continuer voilà, cette proximité avec son bébé à tout moment de la journée.
Gilles Vaquier, oui. Vous êtes un ancien préparateur en pharmacie, je crois que je l'ai dit tout à l'heure, diplômé d'État en petite enfance et formateur pour parents en discipline positive et formé à la parentalité positive par Isabelle Filiosa. Ça fait beaucoup tout ça. Vous avez été parent à 40 ans, c'est oui. Vous qui me l'avez dit.
Oui.
Enfin, papa à 40 oui. ans. Ce qui quand vous me l'avez dit, vous m'avez dit c'est tard. Et votre première fille a eu un accident grave dont elle est sortie
oui.
difficilement, mais elle s'en est sortie. Aujourd'hui, vous avez fait de ce drame une force et c'est là-dedans que vous puisez l'envie de partager tout ça avec tout le monde.
Absolument.
Et c'est à partir de là que vous avez décidé de faire des ateliers
oui.
et que vous mettez quand même un point d'honneur aussi à la sécurité.
Absolument, vous avez tout dit.
Ça se comprend en même temps.
Ça se comprend, oui, quand on connaît l'histoire, évidemment. Oui, tout à fait.
Et
moi,
pour...
j'ai fait on va dire, c'est un drame heureux.
Ouais.
Voilà. Parce que ça se finit bien et qu'en plus il y a quelque chose derrière qui
et
est né.
Et qu'en plus vous transcendez.
Et qu'en plus moi je suis dans la transmission et c'est une des plus belles choses qu'il y a dans la vie, c'est de transmettre.
Pour vous, ce serait une chose inconcevable d'imaginer qu'un père puisse ne pas jouer son rôle dans la paternité et ne pas paterner.
Inconcevable, c'est dur à dire, mais.
Enfin, on le conçoit puisqu'on le voit. Ça,
oui.
Ça existe.
Oui, bien sûr, complètement. Oui. Ça existe.
Mais c'est pour lutter contre ça que vous faites tout ça.
Oui, oui.
Plus que pour.
Pour le bonheur de l'enfant au final, parce qu'on sait que ça va, on sait vers qui ça va aller. Mais oui, c'est important qu'il y ait un lieu pour les pères uniquement où ils puissent libérer la parole, se sentir à l'aise, de pas avoir le regard réprobateur de leur conjointe, excusez-moi.
Non, je vous excuse pas, on va s'arrêter sur cette phrase là parce que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a aussi cette problématique de oui mais ma femme elle veut pas me donner cette place là, ça
oui,
arrive
beaucoup,
ça
beaucoup 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 parce
alors,
que
comment on fait face à ça parce que c'est quand même au départ la mère qui est très proche de son enfant, plus naturellement. Et,
oui.
et du coup, le père, vous ne pouvez pas lui conseiller de lui arracher des bras, quoi. C'est pas
non,
possible.
Non.
Donc, quels sont vos conseils
Disons que si vous voulez, quand il sort de ne pas avoir passé la journée avec moi, après, il y a une sorte de légitimité, si j'ose dire, qui s'installe, parce qu'il a confiance en lui.
J'ai vu Gilles Vaquier, donc
oui,
tu ne
oui.
me dis pas non.
Oui, mais c'est un petit peu ça, parce qu'il a des connaissances sur plein de domaines, donc ça permet de partager beaucoup. Donc, et ça met en confiance la maman. Et du coup, la maman, elle a tendance à un petit peu plus lâcher du lest, si j'ose dire, parce qu'elle est en confiance.
Parce que le père a fait une formation.
Parce que le père a fait une formation et qu'elle lui dit, je vais rentrer en retard, tu lui donnes le bain. Bah oui, il peut le faire. Voilà.
Il est certifié Gilles Vaquier, quoi.
Et oui, tout ça, c'est ça.
À qui s'adressent vos journées de formation, Gilles Vaquier?
Aux futurs papas qui veulent avoir des moyens, des outils, une philosophie, un état d'esprit pour commencer cette nouvelle vie et non pas affronter l'inconnu sans connaissance, quoi.
Donc
voilà.
C'est avant que le bébé arrive.
C'est avant que le bébé arrive. Généralement,
pendant
ils viennent vers
grossesse.
Le huitième mois,
ouais.
voilà, et on passe une journée complète. Par contre, c'est vraiment un atelier complet. Donc, il va parler de la prévention des risques, de l'éducation positive, les exercices pratiques, change, bain, soins, hygiène, pour donc c'est les rudiments hein, de la parentalité.
0-3 ans, quoi.
C'est 0-3 ans, absolument, tout à fait.
Et vous avez une nouveauté pour 2019.
Et pour 2019, donc il y a le livre qui va sortir, Nouveau papa, les clés de l'éducation positive, mm-hmm. Donc Isabelle Filioza, dont Isabelle Filioza a fait la préface, et puis également aussi donc un atelier du vendredi soir de 18h30 à 20h30 qui est uniquement basé sur les gestes du quotidien.
Une version plus courte.
Une version plus courte pour ceux qui veulent pas avoir la journée complète parce que ça, c'est vrai que sur le week-end ça mange une journée et puis aussi qui se dit c'est un programme qui est lourd sur la journée du samedi, mais moi je pense qu'il est
il est
ultra nécessaire, mais celui qui ne veut pas le faire, eh ben il peut au moins venir assister, toujours pareil, même concept, entre hommes, dans la joie et la bonne humeur, pédagogie et convivialité, hein, c'est parce qu'on parle de la vie, on parle et de l'avenir, on donne
non.
pas, et non. non. On parle pas de, voilà, on parle pas, donc il faut que ce soit quand même sympathique, ça j'y tiens énormément, mais apprendre quand même les bases, voilà, comment le porter, les premiers gestes, voilà, c'est mettre un pied à l'étrier de cette nouvelle vie, quoi.
C'est noté. Est-ce qu'on peut finalement materner proximalement, approximativement ? J'aime bien faire des jeux de mots comme ça en fin d'émission. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut faire son marché et n'expérimenter qu'une partie du maternage proximal, par exemple décider d'allaiter tardivement sans pour autant pratiquer le portage ou le cododo et tout en étant considéré comme une maternante finalement ? Ou est-ce que c'est le package et si on fait pas tout en même temps, notre enfant il sera malheureux ? Véronique Darmanja, je sens que cette question vous inspire.
Bah oui, tout à fait, parce que je pense que si on met des règles, on casse tout et que finalement, c'est qu'à chaque parent de trouver sa façon de s'occuper de son bébé et que finalement, mettre des étiquettes, je suis maternante ou je ne suis pas, on s'en fout. Mmh,
expérimenter.
Mais oui, c'est ce qui compte, c'est d'être bien avec son enfant, de faire ce qu'on ressent aussi et de s'écouter en tant que parent. C'est extrêmement important.
Alors, puisque je vous tiens, Véronique Darmanja, j'ai une dernière question à vous poser par rapport à l'allaitement. Je vais vous donner une citation. « La bonne mère est celle qui allaite. L'envers de la médaille est évidemment la culpabilisation de toutes celles qui ne s'y retrouvent pas. On stigmatise les mères qui préfèrent donner le biberon. » C'est d'Elisabeth Badinter, philosophe et femme de lettres, dans son ouvrage polémique et féministe « Le conflit, la femme et la mère ». C'est un ouvrage de 2010 sorti chez Flammarion. Et elle finit par poser cette question « Si l'allaitement est un droit, le non-allaitement l'est-il encore ?» Alors, c'est une question qu'on peut se poser en la transformant, et vous y avez déjà répondu, par « Et si le maternage proximal est un droit, le non-maternage est-il encore ?» Oui, on a le droit d'être une maman qui décide de ne pas allaiter, de ne pas dormir avec son bébé, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Moi, l'intérêt de cette citation, c'est de parler de la culpabilité. Mais... parce que beaucoup de mères culpabilisent de ne pas faire tout ça. Ou de faire autrement. Et je voudrais qu'on termine par parler de cette culpabilité qui, moi, me fait mal au cœur. Et je ne veux pas qu'on termine cette émission en donnant l'impression à nos auditeurs ou auditrices que s'ils ne font pas tout ce dont on vient de parler, c'est qu'ils sont des mauvais parents.
Mais à ce compte-là, on est tous des mauvais parents. Tous les parents sont des mauvais parents. Et vous aurez toujours quelqu'un pour dire aux parents qu'ils font mal. Et c'est pour ça que je dis que ce qui compte, c'est que les parents s'écoutent et écoutent ce qu'ils ressentent et ce qu'eux veulent faire avec leur enfant. Et c'est à eux de décider. Et c'est pas à qui que ce soit d'autre de leur dire ce qu'ils doivent faire.
Aujourd'hui, nous, on propose des choses. Après, à chacun d'aller piocher là-dedans et d'expérimenter ce qu'il veut. Oriane, Emmanuel, Émile, vous avez quelque chose à... vous voulez réagir à ça ? Cette question de la culpabilité.
Oui, c'est le débat de toujours, ça, je pense, de toute façon. Mais effectivement, à partir du moment où on fait des choix en toute connaissance de cause, qu'on sait ce que chaque chose peut nous apporter, qu'on arrive, nous aussi, à y trouver notre compte en tant que parents, en faisant telle ou telle chose, qu'on le fasse ou qu'on ne le fasse pas, le tout, c'est qu'on soit bien dans nos choix, finalement, et que ça corresponde à notre famille.
Oui, que ça corresponde à notre famille, parce que finalement, toutes ces questions de maternage proximal, on peut se dire que ça marche bien aussi dans un milieu où on a du temps, dans un milieu communautaire, dans un milieu où on est aidé, écouté, mais que quand on est, j'en sais rien, maman célibataire, qu'on se retrouve tout seul avec un petit, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'on travaille en même temps. Appliquer tout ça, c'est aussi très difficile. Au-delà de la question de... ça peut être tout simplement un choix de ne pas le faire, mais en plus de ça, ça demande quand même du temps et ça demande de l'espace et du soutien. Et c'est pas forcément encore aujourd'hui, et c'est ce qu'on entend dire aussi, très adapté à notre société et aux difficultés qu'on rencontre dans ce monde moderne. Bertie Poincelet, peut-être un mot là-dessus pour cette fin d'émission.
Oui, puisque ça m'arrive aussi d'avoir des messages de parents qui me disent qu'ils auraient voulu s'inscrire et ils n'ont pas pu le faire et ils s'en veulent.
Parce qu'ils n'ont pas le temps, en fait.
Parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que la vie quotidienne a pris le dessus, parce qu'il n'y avait pas forcément l'espace. Mais c'est vrai que la question de la culpabilité, elle est très touchante, puisqu'il y a même des parents qui vont avoir fait tout ce dont on a parlé pendant l'émission, et ça ne les empêchera pas de culpabiliser pour un autre sujet, finalement. La nature est faite comme ça, on a tendance à culpabiliser, à vouloir toujours être le meilleur parent, mais effectivement, comme Véronique l'a dit, on est tous des mauvais parents aussi, et on fait tous des erreurs, et ça n'empêche pas qu'on fait toujours de notre mieux, et comme on peut, surtout.
Merci beaucoup, et Gilles Vaquier, le mot de la fin. Sur cette question de la culpabilité, peut-être, elle vous touche aussi?
Oui, beaucoup.
Des papas qui arrivent culpabilisés d'avance?
Oui.
Vous en avez en atelier?
Oui, beaucoup, beaucoup. Énormément.
Qu'est-ce que vous leur conseillez?
Quand on a passé la journée ensemble, qu'il y a eu beaucoup de connaissances, déjà, ils se sentent mieux, ne serait-ce que par le fait d'avoir acquérir des connaissances. Et ensuite aussi les échanges avec les autres futurs pères,
l'idée
ça les a aussi...
De se retrouver en groupe et de pouvoir partager.
Entre pères, PAIRS, ça les libère énormément. Et c'est vrai qu'il y a cette question de la culpabilité, d'être un bon parent, enfin, être parfait aussi. Alors bon, moi c'est quelque chose que j'ai jamais visé, c'était vraiment de se dire, voilà, être bon. Et aussi, il y a une question du temps, parce que par exemple, pour les signer avec bébé, quand on arrive du travail, ça dépend ce qu'on fait dans la vie, mais si on finit, je dis tard, qu'on rentre à la maison, qu'on a un peu de temps, et bien il vaut mieux consacrer à sa conjointe et à son enfant plutôt que de partir dans des lectures qui vont nous apprendre des choses peut-être, mais qu'après on n'aura pas le temps de mettre en application, ou... partir dans des tentatives de signer ou de faire des choses que je veux dire où on n'aura pas forcément de résultats immédiatement, donc voilà, tout ça va vaut mieux prendre
faire
du temps
choix,
de qualité
en fait.
Ouais, faire des choix et prendre bah, du temps de qualité
le choix
dans
de
tous les cas,
et de ne pas faire autre chose aussi,
oui,
mais
voilà,
faire
absolument
des choix,
oui, tout à fait,
et s'y engager vraiment,
voilà, absolument, tout à fait, exactement, c'est exactement ça.
Merci à tous et à toutes. Cette émission Bien-être ensemble sur le maternage proximal sera rediffusée la semaine prochaine tous les jours à 17h en écoute libre sur Radio Médecine 12.com. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager. Son podcast est également disponible dès à présent. Merci, chers auditeurs et auditrices, pour votre écoute, et un grand merci à vous, chers invités. Je vais rappeler vos références. Véronique Darmandja, vous êtes consultante en lactation et avez ouvert le centre Véronique Darmandja à Paris, avec plein de professionnels différents pour vous aider. Est-ce qu'il y a un site sur lequel on peut vous retrouver, Véronique?
allaiteraparis.fr.
Bertie Poincelet, vous êtes éducatrice spécialisée à temps partiel et aussi animatrice et formatrice certifiée Bébé Fais-moi signe pour une communication gestuelle associée à la parole avec les tout-petits, pour retrouver les infos sur la langue des signes pour les petits. Alors, pas la langue des signes, là, le signage avec les petits. Vous avez un site à nous indiquer aussi?
Oui, puisque l'association Bébé Fais-moi signe est présente vraiment sur tout le territoire français, donc bébéfaismoisigne.com pour trouver toutes les animatrices et formatrices sur le territoire.
Merci beaucoup, c'est noté. Diplômé d'État en petite enfance et formateur pour parents en discipline positive, vous êtes le fondateur de l'atelier du futur papa à Paris 15e et tapez en ce moment sur votre téléphone alors que je suis en train de parler, Gilles Vaquier. Voilà, alors on en a parlé tout à l'heure. Où retrouver toutes les informations sur votre activité, sur les ateliers du futur papa, les informations sur votre livre, les informations sur le nouvel atelier de 2 heures qui commencera à partir de janvier 2019?
Sur le site internet www.atelierdufuturpapa.com.
Tout simplement. Et Oriane Emmanuel-Émile, vous êtes diététicienne, consultante en lactation, conférencière et monitrice de portage. Pour vous retrouver sur internet, qu'est-ce qu'on fait? Pareil, même question.
Alors, avec mon nom, Oriane Emmanuel-Émile, et autrement, une page Facebook pour l'instant, Mamoun, MAM2ON-materne.
Oriane, je vous donne la parole pour le mot de la fin. Vous avez choisi qu'on écoute une très jolie chanson de Terry Moïse, c'est...
Je serai là.
Quelques mots sur cette chanson, sur ce choix?
Bonne écoute.
Tout est dit. À très bientôt, chers auditeurs, pour un nouvel épisode de Bien-être Ensemble sur Radio Médecine Douce. On vous aime. Ciao.
mes erreurs et tes peurs, je les efface. Et chaque faux pas que tu feras, je tomberai à ta place. Mon seul plaisir sera de t'offrir une vie idéale, sans peine et sans mal. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi. Que tous tes amours sois sûr, tes amis sincères. Pour toi un domaine où la haine est la seule étrangère. Je ferai un monde où tout ira bien. Tu seras jamais seul, tu manqueras de rien. Et j'ai découvert qui je suis. Tout a changé le jour où je t'ai donné la vie. Et si jamais le monde t'est trop cruel, je serai là, toujours pour toi.
Jamais le monde t'est trop cruel, je serai.